fragile, il n'en inspirait pas moins des inquiétudes. Il fallait le ménager. Pour sa mère surtout, il était ce qu'en allemand on appelle une joie tremblante. L'hiver en Hombrie peut être glacial. Aussi de grosses bûches flambaient-elles dans les vastes cheminées, et le garçon tombait dans des songeries devant ces flammes qui dansaient joyeusement. Il y avait une fascination dans le feu à la fois redoutable et amicale, fraternelle. L'été venu, il était délicieux de chercher la fraîcheur sous les arbres au fond des jardins de son père où bavardait un torrent. Toutes les douceurs de la vie conspiraient pour séduire le jeune être sensible. Qu'il faisait bon respirer sous ce ciel pur traversé parfois de chants d'oiseaux. Tout était beau sur terre. À Saint-Georges et dans la rue, le garçon méditatif se montrait brusquement batailleur au jeu de la petite guerre. On simulait les conflits qui éclataient chaque année entre la ville haute et la ville basse. Dans un camp ou dans l'autre, François était le chef. Il voulait à tout prix être le premier. Et comme par instinct on le suivait, il savait se faire obéir sans effort, sans violence, simplement parce qu'il était lui-même. Religion et diablerie. Sa première éducation religieuse lui fut donnée à Saint-Nicolas, qui se trouvait à côté de la maison familiale et était donc sa paroisse. À ce qui devint plus tard le catéchisme, on expliquait aux enfants le pater et le credo. Il va sans dire que les vies des saints et que les miracles du Christ étaient racontés avec tout le merveilleux que cela comportait, comme dans une légende dorée. Jusque-là, tout était normal. Mais le 6 décembre se célébrait la fête du patron de l'église, le grand thaumaturge Nicolas. C'était aussi le jour choisi pour l'exaltation de la vertu d'humilité, célébration étrange dont les origines plongeaient dans un paganisme immémorial. Tous les élèves d'Assise y étaient conviés pour faire honneur à cette paroisse privilégiée. Les très jeunes élisaient alors celui d'entre eux qui allait devenir l'évêque des enfants, l'épiscopello. Celui-ci faisait son entrée dans l'église vêtu d'ornements épiscopaux et suivi d'acolytes. Mitre en tête et crosse au poing, il montait vers l'autel, entonnait des hymnes et s'asseyait dans le fauteuil de son éminence. L'aspect burlesque de la cérémonie attirait du monde. L'église s'emplissait. Soufflait alors un vent de Saturnale, et la fête tournait à ce qu'on appelait bizarrement les libertés de décembre, parce que, par une sorte de subversion générale, les maîtres devenaient les serviteurs de leurs serviteurs, qui à leur tour leur donnaient des ordres. Très vite, l'instinct sexuel emportait tout. La débauche allait si loin qu'elle provoquait des admonestations indignées de Rome. Celle d'Innocent III, en 1207, fait mention dans son latin brutal de « chants obscènes, de danse et de fornication ». Hommes, femmes, enfants, clercs et laïcs se livraient à leurs fringales et la fièvre passait de l'église à la rue. Au son d'instruments antiques, accompagnant d'ordinaire les cortèges de Bacchus, cymbales et sistres, on dansait, on s'empiffrait, on s'enivrait. L'orgie s'étalait sur la place publique où des femmes demi-nues, couronnées de fleurs, pieds et poings liés, étaient exhibées et vendues sur des chars pendant que retentissait un chant singulier. Adam maudissant la femme, l'ennemi et la maîtresse, désiré et haï, fléau du monde qui avait chassé l'homme du paradis. Des belles demeures du paradis, je fus chassé pour une fille, resplendissante comme une étoile. Ne croyez pas à la femme. Et toute la foule hurlait « Libérez-nous ! Libérez-nous ! Ne croyez pas à la femme !» Les pouvoirs du petit évêque expiraient 3 semaines plus tard, le 26 décembre, à la fête des Saints Innocents. Ce jour-là, l'enfant, toujours déguisé, entouré de sa cour de petits garçons, se rendait fièrement à cheval au palais de l'évêque. Au chant de « Sinite parvulos »,« Laissez venir à moi les petits-enfants », le prélat le recevait à l'entrée de sa demeure et l'encensait. Ensuite, tous entraient. Le petit évêque faisait subir au grand un interrogatoire serré, lui demandant des comptes de la gestion des aumônes, le réprimandant. Et l'évêque jouait docilement à ce jeu absurde,